Cours de métaphysique. La personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 février 1999, à Saint-Jodard.
Vous dites que la recherche de la vérité structure la personne. Je suis d'accord. Mais qu'entendez-vous exactement par le mot structure? Quel est son sens philosophique? Aristotélicien. C'est un mot qui vient du marxisme. Et les mots, le jugement est marxiste, l'appréhension ne l'est pas. Or, la signification, c'est l'appréhension. Alors, je me demande, ce serait intéressant à chercher, c'est toujours intéressant de chercher l'origine des mots structure. Aujourd'hui, on l'emploie couramment. Donc ça, c'est bon. Le public relève comme ça structure. Qu'est-ce que vous voulez dire par structure? On n'emploie pas le mot structure dans l'analyse du tiesti. On emploie le mot structure dans l'analyse du POS. Je crois. Marx est dans l'étude du POS, du comment. L'aspect sociologique, il n'en quitte pas. Tout est sociologique pour Marx. L'intérêt des choses, c'est d'être sociologique. Une chose qui n'est pas sociologique n'a pas d'intérêt. Et alors, on cherche à voir dans l'organisation vitale les différents moments. Et on avait une structure, l'infrastructure. Ça, c'est très marxiste. Je ne parle pas de l'infrastructure. Je ne dis pas que la vérité, c'est l'infrastructure de la personne. Mais en tant que marxiste, je pourrais le dire. De la vérité, c'est une infrastructure. Parce que tout repose là-dessus. Une structure fondamentale. Il y a, pour essayer de comprendre, il y a la recherche archéologique. C'est intéressant d'entendre les archéologues, qui sont des chercheurs, des archéologues sur le terrain, de voir comment ils cherchent les infrastructures de ce qui a été avant. Et quand vous êtes à Istanbul, quand vous êtes à Rome, Constantinople, Rome. C'est quand même deux villes importantes, hein, au point de vue de l'histoire de la chrétienté. La Constantinople a perdu son mot. Il s'appelle Istanbul. Mais vous avez le droit, en tant que chrétien, de parler, de penser à Constantinople. Et quand on va à Constantinople, à la différence de Rome, Rome, on a fait des recherches et on voit le résultat de ces recherches. C'est une ville dont on a découvert les différentes structures. Bon, Saint-Pierre a été bâti et puis on s'est arrêté à Saint-Pierre. Basilique. La dévotion, vous allez à Saint-Pierre. Vous n'allez pas chercher les infrastructures de Saint-Pierre. Mais les archéologues veulent savoir comment Saint-Pierre est rattaché à Pierre. beaucoup de Saint-Pierre par rapport à la basilique. C'est intéressant. Est-ce que c'est une partie? Oui, c'est une partie. Mais une partie fondamentale. C'est une structure fondamentale. Et c'est vrai, c'est une structure. C'est pas seulement une partie. Alors, quelle différence y a-t-il entre partie, l'analyse d'un tout, c'est la partie. Et la partie est toute relative au tout. Mais c'est purement formel, hein. Le tout et la partie. C'est même très formel. Une structure, c'est une partie. Mais c'est une partie organique, en fonction de la fin. Je crois que c'est ça qu'il faudrait dire. Si on voulait préciser exactement. C'est une partie, donc, il y a l'intelligibilité de cette partie. La recherche de la vérité est une structure de la personne humaine. Et une structure très importante, essentielle. C'est une partie. Si vous aviez un homme, voyez, qui ne chercherait que la vérité mathématique, ça existe, des maths purs. C'est très curieux. Alors, la recherche de la vérité mathématique, pour eux, est tout. La partie à tout prix. Et vous n'arrivez pas, c'est très difficile, à corriger un matheux. Ouais, j'ai toujours cet exemple dans l'esprit du père Gérard Delaurier, qui était un matheux au sens le plus fort, qui avait ensuite la métaphysique thomiste, mais scolastique. Et bien, quand le père Gérard Delaurier faisait sa thèse de maths, étant déjà religieux, je ne sais plus sur quoi, je lui ai demandé combien de personnes au monde pourront comprendre votre thèse. Il a cherché, il m'a dit, je crois, 3-4 personnes. C'est assez joli, ça. Il en était sûr. L'intelligibilité de sa thèse pour 3-4 personnes. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, la recherche de la vérité devient un absolu. L'absolu mat. C'est pas tout lié à la finalité. Quelqu'un qui ferait une thèse en philosophie qui me dirait ça, je dirais, écoutez, est-ce que vous avez atteint la sagesse? Si vous atteignez la sagesse, c'est pour tous les hommes. Ils l'atteindront différemment, pas autant que vous, mais l'atteindront. Tandis que la formalisation de la recherche de la vérité dans telle matière peut très bien être comprise que par quelques spécialistes. C'est la formalisation de la recherche de la vérité. Alors, on a quelque chose de très spécial. Oui, eh bien, je crois que la structure, c'est l'intelligibilité d'une partie de la personne humaine qui est nécessairement finalisée. Parce que la personne humaine implique la finalité, implique la sagesse. Et la recherche de la vérité est donc une partie fondamentale de la personne humaine. recherche de la vérité, la personne humaine ne se développe plus. Stop. Elle ne se développe plus. Elle reste fixée. C'est comme un vieux professeur qui a son cours qui a été fait il y a 10 ans. Il continue de le lire. Stop. Quelqu'un d'autre pourrait le lire à sa place. Il s'agit d'arrêter. Avons-nous le droit d'arrêter la recherche de la vérité? La recherche de la vérité se fait tout le temps. On étudie, on découvre autre chose. Quand on a 15 ans, quand on a 18 ans, quand on a 25 ans, quand on a, et ainsi de suite. Et cette autre chose fait partie d'une structure de la recherche de la vérité. Il y a toujours le contenu initial, mais parce que vous vous approchez de plus en plus de la fin, et plus vous approchez de la fin, plus cette partie prend son importance, ou au contraire, diminue. Dans la recherche de la personne, on verra les parties qui diminuent et les parties qui augmentent tout le temps. La recherche de la vérité ne cesse de devenir de plus en plus importante dans la personne humaine. C'est une structure essentielle, mais qui augmente. J'ai toujours cité cet exemple parce que ça m'a beaucoup frappé. Le père de Monseigneur de Montléon était un philosophe, un disciple du père de Haut, un grand ami. Sachant qu'il est condamné à mort, me disant: quelle merveille, dans 15 jours, je verrai Dieu. La recherche de la vérité avait tout pris. Il ne regardait plus sa fragilité, sa maladie, le peu de temps qu'il avait encore à vivre sur la terre. Non, dans 15 jours, je verrai Dieu. Pas le contemplatif. Et il était dans la joie. Toute ma vie, j'ai attendu ça. Et maintenant, je sais qu'il n'y en a plus pour longtemps. Normalement. Quand je verrai Dieu, je serai dans son éternité. Il n'y aura plus de croissance. La recherche de la vérité. Un bienheureux qui voit Dieu. Quelle est sa personnalité? C'est de voir Dieu. D'être parfaitement fils. C'est la paternité qui prend tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un fils? Il est relatif au père. Mais il est relatif au père différemment quand il est tout proche de la vision béatifique. Que lorsqu'il marche à quatre pattes, très très lentement vers la charité. Dieu, nous marchons, nous, quand nous entrons en métaphysique à quatre pattes. De temps en temps, on lève, mais on tient le sol. On regarde un peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est ça la structure, c'est difficile à préciser. Parce que je crois que c'est la détermination d'une partie organique finalisée. C'est ça la structure, je crois bien. Si vous trouvez une définition meilleure que celle-là, vous me le direz. sur le conditionnement, et elle apporte quelque chose, mais qui doit être intégré dans quelque chose de différent. La recherche de la personnalité et des différents éléments de la personnalité est quelque chose qui a très peu été développé en métaphysique et qu'on doit faire en métaphysique. Si je le fais avec vous, c'est parce que je suis convaincu que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de réfléchir métaphysiquement sur la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Chaque fois que je découvre un principe métaphysique, je dois voir comment ce principe se réalise dans notre vie humaine. Comment l'acte, principe, qui finalise, se réalise dans ma vie humaine. Et comment cet acte me structure. La vérité est acte pour mon intelligence. Comment ce désir de la vérité structure ma personne humaine ? C'est l'aspect spirituel de ma personne humaine. La recherche de la vérité. Alors, si je suis en mathématiques, cette recherche de la vérité n'est pas et n'est jamais sagesse. Si je fais une philosophie réaliste, cette philosophie me conduit à la sagesse. Et avant d'atteindre la sagesse, je réfléchis sur ma personne humaine. Et quelle est la place dans ma personne humaine de cette recherche de la vérité ? c'est essentiel à l'homme. Puisque la personne regarde le tout, au-delà de l'âge. Eh bien, cette capacité d'amour, d'amitié, je dis bien cette capacité d'amour, d'amitié, qui pourrait être une vraie capacité, implique d'être actué. L'amour d'amitié joue un rôle essentiel à ma personne humaine, à ce que représente la personne humaine. C'est pas du tout accidentel. C'est essentiel. Mais ce n'est pas fondamental. C'est au contraire ultime. D'amitié est en effet l'amour spirituel le plus fort que je peux expérimenter. Cet amour d'amitié à l'égard de l'homme, à l'égard de l'ami homme, selon la similitude ou selon la coopération, l'accomplissement, l'ami est un autre moi-même. En tant qu'il est un autre moi-même, il y a toujours l'aspect de la similitude. Mais il peut être un autre moi-même qui m'accomplit, qui m'achève. Et au sens tout à fait rigoureux, l'amitié pourrait être vraiment une amitié. Passe d'un ami qui qui me fait pas peur. Un ami qui est semblable à moi, il me fait pas peur. Je risque de me replier sur moi. C'est très important pour toute la personne, vous voyez. Seul, l'amour d'amitié qui m'a grandi fait partie comme élément essentiel de ma personne. Je crois qu'un amour de similitude, même s'il est excellent moralement, un amour de similitude m'arrête, ne me fait pas grandir. Il est bon, mais il est bon horizontalement, donc il n'est pas parfaitement bon. La bonté, c'est toujours quelque chose qui est plus grand que moi, qui me finalise, donc qui m'agrandit, qui me permet d'aller plus loin. C'est ça qu'il y a de si extraordinaire dans l'amour d'amitié, dans une complémentarité. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui m'agrandit. Oui, je crois que ce serait ça à creuser pour comprendre comment, dans toute civilisation où il n'y a plus d'espérance, et nous sommes dans ce climat, nous assistons à la fin de la culture chrétienne comme culture. C'est vrai, ça se... partout, ça éclate. Alors, à ce moment-là, il y a un repli. La vieille culture européenne, c'était ce très cher frère dominicain, canadien, qui, au bout de 4 ans d'études en ce soir, disait avec très grande simplicité, quittons cette vieille culture européenne pour retourner au Canada. Il me le disait à moi parce qu'on était très amis, on s'aimait beaucoup. On l'avait surnommé Chicoutimi, parce qu'un jour, il nous a parlé de Chicoutimi. Alors, c'est tellement joli. Là, le lac profond, selon la langue ancienne, indienne. Et c'est très significatif, ces choses-là. On assiste à une vieille culture qui réfléchit sur elle-même. La phénoménologie. C'est la culture d'une vieille civilisation, avec tout son avantage, et aussi son manque d'espérance, son manque de hardiesse d'aller à l'avant-garde. Ça arrête. Alors à ce moment-là, l'amitié du semblable au semblable, rechercher avant tout, parce que c'est une amitié qui ne structure plus la personne, elle la structure au repos. Mais la question se pose, est-ce que la personne humaine, pour être vraiment personne humaine, ne réclame-t-elle pas toujours de grandir? Bon, je pose la question, on la verra au terme. Je pose la question maintenant, parce que c'est intéressant avec l'amour d'amitié. Est-ce que ce n'est pas essentiel à la personne humaine de grandir tout le temps. Je vous ai dit, il n'y a pas de limite dans la recherche de la vérité. Vous ne pouvez jamais dire « je m'arrête ». Je sais tout. Il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. On recherche tout le temps. Et on sait qu'on peut toujours aller plus loin. En métaphysique, en sagesse, on peut toujours aller plus loin. Et si la recherche de la vérité et structure fondamentale de la personne humaine, ça me montre bien que ma personne humaine implique essentiellement de croître. Croissance infinie. Alors si là-dessus se greffe ce troisième élément de la personne humaine, l'amour d'amitié, et que je dis que l'amour d'amitié du semblable au semblable est ce qu'il y a de plus parfait, je dis stop. Et l'amour d'amitié, à la place d'être un élément qui me maintient toujours, toujours, pour aller plus loin, l'amour d'amitié devient un épée noire. Et là où on entend ses réflexions, mais que l'ami n'entend pas. Oh, c'est terrible. Il est accroché à cette personne. Et depuis, il stoppe. Il ne grandit plus. C'est plus lui. Il ronronne. Et ça se sent. Ça se voit. Mais il y a là quelque chose qui me semble très important à saisir dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que, vous voyez, la tentation toujours, c'est de dire l'amour d'amitié est au-dessus de la morale, ce qui est très vrai. Puisqu'il y a toujours une fin. Mais l'amour d'amitié est ordonné à la personne humaine. C'est sûr. Elle touche une fin. La fin de qui ? La fin de l'homme. Le bonheur de l'homme. Si ma personne humaine n'est pas liée à mon bonheur, on la renvoie promener. Vous voyez, c'est ça la moralisation. La moralisation, c'est quand, de fait, qu'aux exemplaires, on regarde la perfection de la vertu pour elle-même. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Parce que ça cache la finalité. Ça empêche d'aller plus loin. La vertu ne mesure pas la personne humaine. La vertu est un moyen d'atteindre ma fin. Et quand la vertu devient mesure de la personne humaine, c'est très... ça arrête. C'est très curieux de voir qu'au fond, l'amour d'amitié dans la similitude transpose dans l'amitié une formalisation. On a horreur d'une formalisation au niveau de la vertu. Rien n'est plus ennuyeux qu'une formalisation de la vertu qui arrête l'homme à la vertu. Et dans l'amour d'amitié, selon la similitude, quand on le prend comme un absolu, on transpose dans l'amitié ce qu'on a horreur dans la vertu, la formalisation de la vertu, qui fait que la vertu devient cause exemplaire et cause finale. L'amour d'amitié ne peut pas être cause exemplaire et par là cause finale, non. L'amour d'amitié demeure ouvert à une recherche constante de la vérité. L'ennemi le plus terrible à l'égard de l'amour d'amitié véritable, c'est lorsqu'on ne recherche plus la vérité et qu'on considère que l'ami est pour moi la vérité. Non. Le véritable ami, c'est celui qui m'aide à découvrir la vérité et à aller plus loin. La vérité et Platon, je les aime tous les deux, mais la vérité plus que Platon. Ça, c'est le réalisme profond de la finalité. L'amour de la vérité est quelque chose qui m'empêche de m'enfermer dans cette prison d'or qui est l'ami semblable à moi. Le véritable ami est celui qui exige toujours de son ami d'aller plus loin. Et qui ne lui dit pas, mais tu es parfait comme ça, c'est merveilleux. Tous les deux, nous sommes des êtres parfaits. Restons là où nous sommes. Alors on est l'Olympe de l'ami. Et ça existe beaucoup plus dans le petit film qui montre l'éloge de l'euthanasie. C'est ça. On dit à son ami, personne en dehors de toi ne peut me donner le bonheur. Alors si tu meurs, il faut que je meure. Et quelquefois on dit ça, non pas seulement au niveau biologique, on le dit même au niveau spirituel. Et il y a dans Aristote une parole qui montre bien que Aristote touche certaines limites. Est-ce qu'il est souhaitable à mon ami de devenir Dieu? En tant que chrétien, je dirais oui. Aristote dit non, il ne sera plus mon ami. Je vois très bien ce qu'il dit. Et alors lui pense à l'hubris. Parce que devenir Dieu pour un grec, c'est l'orgueil. Alors si mon ami est pris par la bouffée d'orgueil d'être comme Dieu, il n'est plus mon ami. Et c'est vrai, c'est l'orgueil qui est l'ennemi numéro un de l'amitié. Parce qu'il n'y a plus cette recherche de la vérité. La recherche de la vérité empêche de tomber dans cet orgueil. Et donc de se croire bien plus important que son ami. Non. Dans la véritable amitié, si l'ami dépasse son ami, le véritable ami voit que son ami, qui est relatif à lui, lui apporte quelque chose qu'il n'a pas et respecte en lui ce qu'il y a d'unique. C'est étonnant ça. Alors, la recherche de l'amitié au niveau où nous sommes, au point de vue philosophique, élément de la personne humaine. L'amour d'amitié est essentiel, je ne dis pas fondamental, essentiel, parce que plus l'homme avance dans la recherche de la vérité, plus il est seul en face de la vérité qu'il contemple, qu'il recherche. Or, l'homme toujours besoin des moments plus difficiles d'un appui. Il a besoin de pouvoir se reposer sans diminuer. Il a besoin, parce que c'est le propre du vivant, de se reposer. La nature ne se repose jamais. Elle est tout le temps en devenir, un devenir parfait. C'est avec la vie que le repos existe. Le vivant dort parce qu'il est vivant. Je ne dis pas que c'est ça qui est caractéristique du vivant, mais c'est essentiel au vivant de se reposer. Et plus on est dans une vie spirituelle, plus le vivant a besoin de repos. Mais c'est très dangereux le repos, parce qu'on se désarme. Vous avez ces passages extraordinaires de la Bible. On voit des amis, ils se mettent à se grêler. Et quand l'ami trouve son ami, il dort, il pourrait le tuer. Il le tue pas. Mais il signale à son ami qu'il est passé et qu'il a respecté son sommeil. Respecter le sommeil de l'ami, c'est quelque chose de très grand. Respecter le sommeil de l'homme, c'est très grand. Nous sommes nés dans le sommeil, in sinu, mater itatis, dans le sein de notre mère. Respectez le sommeil du tout petit enfant, de l'embryon. L'homme naît de cette manière-là. Respectez le sommeil de celui qui cherche. Il n'a pas encore trouvé. Respecter son sommeil, c'est-à-dire respecter son rythme et ne pas être violent. Ça, moi, j'ai trouvé. Alors, tu dois marcher. Non. Respecter son sommeil. Il a besoin de se reposer. C'est un des grands signes de l'amitié, ça. Donc, l'homme a toujours besoin de l'amour d'amitié parce qu'il y a en lui un devenir. S'il y a en lui un devenir spirituel, affectif, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la recherche de la finalité, il a besoin d'avoir le cœur de son ami pour qu'il puisse se reposer. En paix, en sachant que son ami ne profitera pas de son sommeil pour lui faire du mal, pour l'anéantir. Et dans le rythme même de l'être humain qui devient, qui grandit, qui est dans la croissance, il a besoin, parce que la croissance se fait dans la lutte, il a besoin de l'ami, pour pouvoir repartir avec un nouvel élan. S'il n'a pas ça, il ne peut pas repartir avec un nouvel élan. On a besoin de l'ami dans les moments de grande lutte, dans les moments de grande fatigue. Alors c'est un besoin naturel qui est normal. Dans cette recherche de la vérité, qui est difficile, qui est pénible, surtout dans des moments comme les nôtres, on a besoin de l'ami pour pouvoir se reposer sans perdre de temps. S'il n'y a pas d'ami, on devra chercher une forteresse pour pouvoir se reposer. C'est-à-dire être à l'abri de tous les ennemis, à l'abri de tous ceux qui nous en veulent. Tandis que là, auprès de l'ami, on peut toujours aller. nécessité de l'amitié, c'est que grâce à l'ami, on peut se reposer. C'est un des aspects, hein, au point de vue du développement de la personne, c'est un aspect capital, ça. Pourquoi des quantités arrêtent la recherche de la vérité, arriver à un certain niveau? Parce qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont personne pour les aider et qu'ils se mettent dans une forteresse pour se reposer. Se mettre dans une forteresse pour se reposer, c'est très bien, mais après, il faut sortir de la forteresse. Et quelquefois, on n'y arrive pas. Et puis qu'on se dit, après tout, c'est peut-être mieux. Le monde est tellement mensonger. Le monde est tellement terrible. Au moins derrière cette forteresse, ça va. Je suis tranquille. Mais cette forteresse devient une prison. C'est curieux, ça. Cette forteresse devient une prison. Je n'arrive pas à en sortir. Je suis entré. Je me suis reposé. Et je n'arrive plus à en sortir. L'amitié, l'ami est là pour veiller à notre réveil et nous aider à repartir avec un nouvel élan. Sorte que il faut comprendre la nécessité de cette fin intermédiaire qui n'est pas la fin ultime. Considérez comme fin ultime, cela risque de nous étouffer. Cela risque de faire de l'ami une forteresse. Et on n'en sort plus. L'amour d'amitié développe en moi ma capacité d'aimer. Et c'est cela qu'il y a de plus grand dans l'amour d'amitié. Mais ce n'est plus le conditionnement du repos qui est réel et qui est très important et celui que je touche le mieux. Mais si l'amour d'amitié est un élément essentiel à la personne humaine, c'est parce que l'amour d'amitié me permet de développer en moi ma capacité d'aimer. Nous verrons la fois prochaine.